Dormir, dormir, comment ? Le passage est fermé, la porte a disparu, le mur est lisse, le sommeil n'est connu que de nom, comme un mythe, comme un fantôme. Comment ? Comment ? Comment faire pour dormir ? Juste ça, dormir. Dormir avec soi, dormir de soi, trouver le sommeil en soi, ou se piquer sur une quenouille pour tomber endormi comme la belle au bois dormant. Marie Dariussec est ce soir notre invitée pour le dernier épisode de notre série « Désir de nuit », à l'occasion bien sûr de son livre « Pas dormir ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Petula Clark.
La nuit n'en finit plus, et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé, de tout ce temps gâché, qui, comme moi, ce soir sont solitaires. C'est triste à mourir, quel monde insensé. Oh, je voudrais dormir et ne plus penser.
Vos nuits ressemblent-elles à celles de Petula Clark, Marie Dariussec ?
Les nuits qui n'en finissent plus. Oui, oui, il y en a beaucoup qui ressemblent à celles de Petula Clark. Le rythme en moins quand même. Hein.
Pourquoi c'est long, la
nuit ? C'est très long, on manque un peu de peps la nuit. Il faut se lever parfois. Enfin bon, il y a un usage de la nuit. Souvent je me dis que je ferais mieux d'aller en boîte plutôt que de rester dans mon lit.
Bah, et malheureusement elle ferme. C'est fini. Plus de discothèque, ouais. Comment vous allez faire ?
Je vais rester dans mon lit, me lever. Non, mais c'est une négociation permanente, la nuit.
Ça commence quand ? La nuit ?
La nuit, pour moi, quand est-ce qu'elle commence ? J'ai des souvenirs d'enfance qu'on a... On est peut-être nombreux à partager. Vous savez, vos parents vous mettent au lit alors qu'il fait grand jour dehors parce que c'est l'été. Et ils ferment les volets. Et la lumière de la soirée rougeoyante la passe à travers les volets. Et ça, c'est terrible. Il y a de quoi plus jamais vouloir dormir. Et vouloir sortir, vouloir s'enfuir.
Vous avez fait le mur quelquefois quand vous étiez enfant ou adolescente ?
Oui, j'ai fait le mur.
Pour vivre la nuit ?
J'ai fait le mur, oui. Je le raconte un petit peu à ma façon dans un de mes romans, Clèves, qui est très autobiographique. Mais j'ai fait le nuage, je partais de mon petit village à vélo, je partais en survêtement. Et je me changeais, j'avais une mini-jupe pailletée. Je me changeais juste avant d'arriver à la bonne nuit qui s'appelait l'Opium à Biarritz. Je me suis trouvée dans des belles galères aussi, hein, parce que à 14 ans, dans les années 80, au milieu de la nuit, c'était pas non plus le plus sûr, disons.
Si je vous dis bonne nuit, vous me donnez une claque.
C'est vrai que depuis que j'ai publié ce livre, les gens s'amusent à me le dire. Non, je trouve ça très, très gentil, finalement, très bienveillant, au fond. J'aimerais bien. La nuit n'est pas très bonne, non. Il y a ce problème quand on dort pas la nuit, quand on est insomniaque comme moi et comme plein de gens, c'est que on va se mettre au lit et le problème commence. Au lieu que le problème s'arrête, au lieu que la journée trouve enfin un terme et qu'on trouve le repos, littéralement ce qu'on appelle le repos, au fond, elle ne fait que commencer. C'est-à-dire qu'on a toute l'attitude de se mettre à gamberger et les phrases se mettent à se battre, à tourner, ça commence en fait, au lieu de s'arrêter. Et ça, c'est infernal. Et donc évidemment, avec le temps, j'ai mis au point des stratégies pour arrêter le ressassement, pour sortir de la spirale, quoi. Mais parfois, elle vous rattrape. Et donc, il y a ce truc où on va se coucher et le duel commence, en fait. La négociation. Je me lève, je me lève pas. Je prends un somnifère, j'en prends pas. Je regarde un film, j'en regarde pas. Je prends un bouquin, je prends pas. Je me mets à écrire. C'est l'enfer. C'est l'enfer, quand même. Bon, parfois, j'arrive à en faire quelque chose, mais c'est souvent une très grande fatigue.
Mais pourquoi aller se coucher puisqu'il fait nuit ou que c'est l'heure d'aller se coucher? Y a-t-il une heure pour aller se coucher? Est-ce que c'est la nuit qui nous enjoint à essayer de nous reposer?
Il y a ce paradoxe de l'insomniaque, c'est que on est très fatigué, donc on se dit « je vais dormir ». On y croit. En fait, c'est ça, c'est une illusion perpétuelle. À chaque fois, j'y crois. À chaque fois, je me dis « je vais dormir, je vais y arriver ». Donc on essaye, voilà, c'est un ratage permanent. Quand j'écrivais ce livre, Pas dormir, je pensais beaucoup à Beckett, enfin au ratage. Lui, il a tout le temps écrit sur le ratage. Et c'est comique au bout d'un moment, évidemment. Mais il y a vraiment ça rate tout le temps. L'insomniaque rate tout le temps sa nuit, en fait. Alors heureusement, il y a un comique de répétition. Il m'est arrivé de me réveiller à 4h du matin, après m'être endormi péniblement 1h30 avant, et d'avoir le fou rire, en fait, parce que mieux vaut en rire. C'est très ironique, l'insomnie. Elle vient vraiment vous tirer par les pieds, quoi. Vous narguer. Alors, des fois, c'est un lutin, des fois, c'est une petite sorcière, des fois, c'est un fantôme. Elle est plus ou moins marrante, mais elle vient toujours vous moquer de vous. Voilà. Se moquer de vous. D'ailleurs, là, vous voyez, j'ai très mal dormi. Et donc, je perds mes mots. Enfin, il y a eu un avantage de la publication de ce livre, c'est que maintenant, je peux le dire. Excusez-moi, mais là, je n'ai plus ma tête, quoi. Je ne sais plus ce que je raconte. Je perds mes mots. Quand j'écris, au moins, j'ai la place de chercher mes mots. C'est mon boulot, quoi. À l'oral, ça devient de pire en pire.
Vous êtes peut-être devenue insomniaque parce que vous êtes très amoureuse peut-être de la nuit et qu'elle vous ensorcelle et qu'elle vous captive et qu'elle vous capture et qu'elle ne veut pas que justement vous lui manquiez, vous la manquiez.
Mmh. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Il y a aussi tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire mais de penser dans la journée. Et là, on se dit, ah bah tiens, il faudrait quand même que je résolve ça. Alors, c'est des trucs impossibles à résoudre dans la minute, ou dans l'heure, ou dans la nuit, évidemment. Mais en fait, quand même, on se dit, allez, je vais essayer, je vais y arriver, là, ce coup-ci, je me rappelle avoir passé, évidemment, des nuits blanches, parce que à l'insomnie chronique s'ajoute l'insomnie de crise, l'insomnie de l'angoisse. Et il fallait que je quitte quelqu'un et je n'y arrivais pas. Et j'ai passé des nuits entières à me dire, je le quitte pas, tic-tac, je le quitte pas. Et peut-être, oui, au fond, c'était la nuit dont j'étais amoureuse aussi, ne pas lâcher ça, cet espace mental à soi. C'est très wolfien aussi, hein. La nuit, c'est un lieu à soi. Personne ne viendra vous le voler, ce lieu-là, le repli dans la nuit. Alors que le monde entier vous dit, mais dors, il est l'heure de dormir, comme les parents, quoi. Il y a une injonction à dormir. Il y aurait un usage de la nuit autre que le sommeil, qui est très séduisant, évidemment.
Alors, les boîtes, c'est fini. Se promener dans la nuit, vous écrivez à travers ce très beau livre, Pas dormir, que c'est pas si évident, hein, c'est dangereux.
Quelquefois, ouais, quand on est une femme, avoir c'est peur.
Donc, lire, vous avez tout essayé. Voir un film, c'est pas terrible non plus.
Et puis, surtout pas de lumière bleue, comme on dit, n'est-ce pas? Il faut surtout pas d'écran, hein, ça vous empêche encore plus de dormir. Non, le mieux, c'est de lire, hein, quand même. Ça fait 20 ans que je ne dors pas. Et quand même, je me suis au fond remise à lire. Parce que dans la journée, quand j'avais une trentaine d'années, me poser à 14 heures pour lire, j'y arrivais pas. Il y avait toujours mieux à faire. Et il y a eu un espace de lecture qui s'est ouvert. Allez savoir, peut-être que je ne dors pas pour trouver cet espace de lecture qui est vraiment... Il y a un creux dans la nuit, là, souvent de minuit à 3 heures, ou alors quand je me réveille de 4 heures à 6 heures, où la lecture est d'une grande intensité. C'est très fort, ce rapport au livre. On est seul avec le livre. Il y a quelque chose d'aimable, évidemment, là-dedans, et de vertigineux aussi. Et j'ai des livres de nuit. Il y a des livres qui vont mieux à la nuit que d'autres. J'évite les essais trop contemporains, par exemple. Je lis beaucoup de classiques la nuit. Quelle richesse, c'est sûr.
Votre livre, Pas dormir, est une sorte de jeu de marelle entre vos émotions, vos sensations, vos perceptions, vos lectures, vos émois, vos bouleversements. Parmi vos émois, il y a bien sûr Marguerite Duras qui a beaucoup parlé de la nuit. Elle va expliquer au micro d'Alain Weinstein, c'est une archive du 24 novembre 1986, comment, à cette période-là, elle occupait ses nuits.
Je dors pas toute la journée, comme certaines gens.
Et la nuit, qu'est-ce que vous faites ?
Je me couche toujours très tard. 2 heures, 3 heures. Quelquefois, je ne dors pas du tout. Enfin, je dors vers 5-6 heures, quoi, c'est dur. C'est relativement rare, maintenant.
Vous écrivez la nuit ?
Oui, comme c'est simple. Ça m'arrive de me faire des notes, pas d'écrire. Les seules notes que je fais, c'est la nuit. Mais les écrire, non, je fais pas ça. La nuit, je lisais. Je vais recommencer, d'ailleurs.
C'est plus difficile à franchir que le jour.
Depuis quelque temps, je ne me plains plus de ne pas dormir. Comme ça m'arrive souvent, on me dit que quand on devient âgé, c'est comme ça. Alors, il faut le prendre comme ça.
Vous pensez à la nuit, à ce qui s'est passé dans la journée ?
Oui, ou bien j'ai des thèmes nocturnes qui sont très fixes, comme ça. Je pense beaucoup aux gens qui sont en prison, depuis toujours. C'est un vrai problème. Je trouve ça intenable. De vivre dans un pays où il y a la teneur d'une ville, 45 000 personnes, enfermées dans des prisons. J'imagine ça souvent, c'est peut-être une attirance aussi. De les faire écrire, je me disais ça une fois. J'ai dit, voilà, c'est idéal, vous écrivez.
Écrivez-vous la nuit, Marie Darrieussecq, ou lisez-vous uniquement ?
Il m'est arrivé d'écrire la nuit sur les injonctions de la psychiatre, j'en étais là, qui a essayé de me soigner, qui donnait des préceptes de bon sens, c'est-à-dire qu'il faut se coucher toujours à la même heure, bon c'est casse-pied, hein. Et si on se réveille à 4h du matin, il faut commencer sa journée. Alors moi, ma journée, il se trouve que c'est une journée où j'écris. Alors bon, 4h, punaise. Alors une grande cafetière... Je m'assois, j'ouvre mon ordinateur, j'essaie de pas répondre aux mails. Allez, en avant, j'écris. Et vers 7h30, la maisonnée se levait. Alors là, petit déj avec tout le monde, c'était assez sympa. On habille la petite, voilà, pour l'école, tout ça. Leur père les envoie à l'école. Et là, il est 9h. Et là, c'est terrible parce que la journée des autres commence. Et moi, je suis déjà crevée, quoi. Et alors, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Se rallonger ? Ma psychiatre me disait surtout pas de sieste, parce que l'idée, c'est la compression de sommeil. Voilà, il faut tenir jusqu'à la nuit suivante, où on finira par dormir. Mais l'épuisement... D'abord, c'est pas parce qu'on est fatigué qu'on dort. C'est ça le problème de l'insomnie. Et puis, je n'ai jamais tenu assez longtemps sans m'écrouler à n'importe quelle heure, en mettant le réveil à 4 heures pour pas rater la sortie des enfants à l'école. Donc, j'ai pas de solution. Mais il m'est arrivé d'écrire, oui. J'ai écrit, il faut, d'ailleurs, c'est une phrase de Duras. J'ai écrit, il faut beaucoup aimer les hommes. Beaucoup, beaucoup les aimer pour les aimer. Sinon, ce n'est pas possible. On ne peut pas les supporter. J'ai écrit, il faut beaucoup aimer les hommes, qui doit beaucoup à Marguerite Duras, à 4 heures du matin, de 4 à 7, comme ça. Bon, donc ça augure de rien, ça augure pas qu'on écrit mieux ou moins bien, ça, c'est juste très fatigant comme vie. Puis on traîne toute la journée en pyjama. La clinophilie, j'en parle dans mon bouquin, la clinophilie c'est la manie de rester au lit. Évidemment c'était Proust le grand champion, et Pérec aussi. Et alors moi j'ai passé des journées entières au lit comme ça, à attendre que ça se passe, mais sans dormir. Hein. Donc, alors la psychiatre m'avait dit, le lit c'est fait pour dormir, dès qu'on ne dort pas on se lève. À la limite, on peut y faire l'amour, mais limite, quoi. Dès qu'on dort pas, faut se lever. Alors effectivement, maintenant, j'ai une espèce de banquette de nonne, que j'appelle une machine à dormir, où je ne vais que quand je sens que je vais dormir. Elle est dans mon bureau, ce qui est très mauvais. Il faut jamais dormir à l'endroit où on travaille, mais bon, j'ai pas le choix, elle est là. Et alors ça marche un peu. Comme elle est très étroite, c'est vraiment une banquette. Quand je dors plus, je me lève. C'est moins pénible que de quitter un grand lit confortable, vous voyez. Je ne vis plus au lit. Avant, je mangeais au lit, j'écrivais au lit, bien sûr. Je jouais avec mes enfants au lit. Alors maintenant, je ne fais plus que tenter d'y dormir.
Vous parlez de Marcel Proust, vous l'évoquez à de nombreuses reprises à l'intérieur de Pas dormir. Je vous propose d'écouter la voix de son biographe, Jean-Yves Tadier, à propos du thème de l'insomnie dans l'œuvre de Proust. C'était le 10 février 2000 au micro de Corinne Rondeau.
L'insomnie, c'est le lieu de la mélancolie. L'insomnie, c'est un des grands thèmes de La Recherche du Temps Perdu, qui est également réparti dans toutes les sections de l'œuvre. Alors, dans sa vie, Proust, hanté par cette peur, cette angoisse de ne pas dormir. Aussi s'agit-il d'une attitude de... Chez Proust, qui était à certains égards resté toujours un enfant, c'est une des causes de son génie. Baudelaire a dit que le génie, c'est l'enfance retrouvée à volonté. Proust était resté un enfant à beaucoup d'égards. Les enfants, chacun de ne veulent pas aller se coucher. Ils ne veulent pas s'endormir. Alors est-ce que Proust est resté toujours cet enfant qui ne voulait pas aller se coucher? Et alors, c'est pour ça que le somnifère a quelque chose de rassurant. On sait que c'est mécanique. Ça vous assure un certain nombre d'heures de sommeil, et puis c'est tout. Évidemment, on se réveille tout à fait pâteux. C'est pourquoi c'est à ne pas conseiller. Mais c'est comme ça que ça marchait pour Proust. Et alors, il se fait médecin à son tour dans ses lettres, et lorsqu'un de ses amis ne peut pas dormir, il lui donne ce conseil. Il lui dit, tu prends pas de somnifère, tu en poses un sur ta table de nuit. Comme ça, tu es rassuré et tu t'endors. Tu sais que tu pourrais le prendre si tu en avais vraiment besoin, mais tu ne le prendras pas. Il a commencé, à partir de l'âge de 25 ans, 30 ans, à vivre la nuit et à dormir le jour. Ce qui veut dire qu'il s'endort vers 8 heures du matin et se réveille à 4 heures de l'après-midi. Il ne s'agit pas du tout de grasse matinée, il s'agit d'un changement beaucoup plus radical et qui d'ailleurs n'a été possible jusqu'au bout, entraînant d'ailleurs très certainement une dégradation de sa santé et peut-être sa mort relativement prématurée, on y arrive qu'en usant de drogues, c'est-à-dire de somnifères, des barbituriques essentiellement, ce qui était les somnifères qu'on avait à l'époque, pour s'endormir, et de caféine pour se réveiller. Il prenait des pilules de caféine, et il buvait aussi des tasses de café. Et il y a même une lettre où il dit avoir des palpitations parce qu'il a bu 40 tasses de café à la suite. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait exactement cela, d'ailleurs c'est Balzac. Balzac avait à peu près les mêmes rythmes vitaux, comme lui il écrivait la nuit, et comme lui il se bourrait de café, et ils sont morts épuisés, tous deux, exactement au même âge, 51 ans.
Est-il dangereux, Marie Dariussecq, de ne pas dormir la nuit, et d'inverser le jour et la nuit, comme l'a fait Marcel Proust?
Oui. Alors, c'est des insomnies de patachon quand même. Hein. C'est dangereux de prendre des barbituriques si on est conductrice d'engin, par exemple, si on doit travailler à la chaîne, si on doit... Mon père, quand même, a été réveillé toutes les nuits parce que les machines de la fonderie où il travaillait tombaient en panne. Il devait courir, les réparer, relancer la coulée, etc. Donc j'ai vu vraiment un homme être démoli par le travail en termes de sommeil. Ma mère, elle, qui dormait assez bien, elle devait faire cours toute la journée à des gamins de collège. Et moi, j'ai été brièvement prof, mais quand on dort pas, c'est l'enfer. Tenir une classe quand on n'a pas dormi. Donc, ça va, nous, les écrivains. Ça va. Et on a tout loisir de penser la nuit aux pauvres prisonniers. Oui, ça m'agace un peu. Mais bon. Non, parce qu'on a des insomnies, en fait tranquille. On peut ne pas dormir et on peut se réveiller à l'heure qu'on veut. Et
c'est un luxe social que d'être insomniaque.
Oui, quand même. Moi, je pense qu'il y a tout un registre de la culpabilité avec l'insomnie. On parle de la dette de sommeil. Et s'il y a bien une chose qu'on peut pas donner, qu'on peut pas partager, en fait, c'est le sommeil. Et il y a des gens qui en ont dramatiquement besoin, enfin, pour tenir le coup. Et c'est ceux-là qui se gavent de somnifères pour pouvoir aller bosser le matin. Donc,
vous avez vu ce rapport qui a été publié ces jours-ci, qui est absolument confondant, disant que 70% des Français n'arrivaient pas à bien dormir la nuit. 70%.
Alors, ça m'étonne pas. Là, ça nous envoie ailleurs. C'est aussi l'injonction à être donc productif, rentable, mais aussi à être constamment connecté et à réagir, à liker, comme on dit. La réaction permanente qui est exigée de nous. La présence sur les réseaux sociaux. Je trouve que c'est un oxymore en soi, quoi, être présent sur les réseaux sociaux. Qui vient vous chercher jusqu'à dans votre lit, littéralement. Enfin, la fameuse chambre de Pascal, où, vous savez, il faudrait... Enfin, tout le malheur du monde vient qu'on ne sait pas rester en repos dans sa chambre, je paraphrase. Mais elle n'existe plus, de toute façon, cette chambre. Horriblement culpabilisante, parce que personne n'a envie de rester dans sa chambre. Les confinements nous l'ont bien prouvé. Mais en plus, de toute façon, ces murs sont poreux. Ces murs sont traversés par le social à outrance que nous propose Internet. J'adore Internet, hein, ça a changé ma vie d'écrivaine. Enfin, c'est une bibliothèque fantastique, évidemment. Mais l'injonction de devoir... y être présent, réagir, etc., c'est l'enfer. Et ça empêche évidemment de dormir, en particulier les ados, hein, tout le monde le voit. Donc en moyenne, évidemment, on dort beaucoup moins, c'est sûr.
Quand je danse, disait Montaigne, mais quand je dors, je ne peux plus dormir alors aujourd'hui. C'est fini.
Ça fait partie du registre des injonctions, je sais plus comment ça s'appelle, mais de ces activités qu'on devrait faire sans y mettre aucune volonté, comme danser ou comme aimer. Si on vous ordonne...
Donc c'est improductif. La nuit est improductive.
La nuit...
Ou alors elle doit préparer le jour pour qu'on soit productif.
Voilà. Alors, il y a une vision marxiste du sommeil. Le sommeil est fait pour réparer la bête. Que la bête puisse retourner au boulot et être productive pour le patronat. Bon, ça existe comme vision. Il y a aussi une vision, vous voyez, j'en perds mes idées... C'est terrible.
Mais une vision de suspension du temps aussi. Une vision où notre propre boussole nous permet de larguer les amarres et d'être justement pas en responsabilité.
Oui, la nuit c'est un temps volé. C'est un temps qui ne devrait être qu'à nous. Mais malheureusement, c'est Jonathan Crary, je retrouve mon idée, Jonathan Crary qui a écrit un très joli livre qui s'appelle Le capitalisme à l'assaut du sommeil. Et il montre qu'effectivement, le capitalisme a réussi à tout nous vendre. L'eau, le toit, la nourriture, les choses absolument indispensables. L'amitié sur Facebook, l'amour sur tous les sites de rencontres, etc. Le sexe évidemment. Mais dit Crary, pas le sommeil. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il y a toute l'industrie, effectivement, des barbituriques qui nous vend un sommeil chimique. Mais il développe assez bien l'idée qu'effectivement, le sommeil en soi est quelque chose qui n'est pas vendable. Enfin, qu'on ne peut pas non plus échanger. On peut pas faire un marché du sommeil.
Et il y a des marchands de sommeil, hein.
Alors oui, oui.
Mais pour les exilés.
C'est des marchands de logement. C'est pas exactement. Personne
ne dit
qu'ils dorment bien.
Oui, ouais. Bien sûr. Ouais. Mais l'expression, c'est marchand de sommeil.
Oui, oui. Alors, le sommeil est attaqué de toutes parts par le marché, disons, hein. Et y compris, effectivement, vous avez raison dans les expressions qu'on emploie, mais il y a quelque chose qui résiste là. Et en particulier, les bons dormeurs sont complètement fascinants. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens qui s'allongeaient par terre là et qui dormaient. Et ça, on a l'impression que personne ne leur volera, personne ne leur prendra ça, ce pouvoir. Je les envie beaucoup. Je ne sais pas me réfugier comme ça dans une bulle. Des gens qui font une petite sieste là sous vos yeux, assis sur une chaise. Ah, j'adore ça. Je trouve ça assez sexy parce qu'ils sont repliés dans un endroit où on peut absolument pas les rejoindre, les atteindre. Il ne faut pas qu'il bave trop en faisant la sieste. Mais en fait, moi, je trouve ça assez sexy. Quelqu'un qui dort comme ça, en le volant à tout le monde.
Et l'amour et la nuit. L'amour, la nuit. Souvent, on fait l'amour, la nuit. C'est comme
c'est
ça.
C'est idiot. Ouais.
Ouais, c'est idiot, mais c'est comme ça. En tout cas, dans notre civilisation occidentale. Et si je vous ai bien lu, Marie Darrieussecq, dans Pas dormir, il y a eu des moments où vous avez dormi des jours et des nuits avec un premier amour. Alors, quel est le rapport entre l'amour... la nuit, l'amour.
Je suis une dormeuse contrariée. J'ai une grande nostalgie de ce sommeil de plomb que j'avais jusqu'à exactement l'âge de 32 ans. Et effectivement, je faisais partie de ces dormeurs qui dormaient, je me rappelle, dans une tente écrasée par le vent avec mon premier mari qui tenait les piquets de la tente et il n'en revenait pas que j'arrive à dormir. J'ai dormi aussi au-dessus d'une boîte de nuit à Amman en Jordanie, oums, 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 oums. Et sur le toit de la boîte de nuit, on était des routards et Enfin, c'était ahurissant, je dormais n'importe où. J'ai perdu le sommeil avec l'arrivée de mes enfants. Voilà, ils ont piétiné sur leurs petits pieds, le sommeil que j'avais. Il est parti comme un chat, le sommeil. Il y a des chats jaloux, vous savez. Et quand les bébés arrivent, les chats s'en vont. Alors je me dis que quand mes enfants seront grands, qu'ils auront tous quitté la maison, peut-être que le chat reviendra, un très vieux chat. On verra. Mais je suis devenue hyper vigilante, comme ça arrive à beaucoup de parents. J'avais tout le temps peur qu'il leur arrive quelque chose. Et je suis restée comme ça. C'est complètement irrationnel. Je veux dire, quand je dors, la planète continue de tourner. Hein. Mais quelque chose de la confiance dans le monde est parti, là.
Je vous propose d'écouter la voix d'Hélène Cixous à propos de la nuit et des rêves, là où elle trouve la matière à écrire. D'ailleurs, son dernier livre s'intitule « Rêvoir ». Nous écoutons la voix d'Hélène Cixous, Archivina, 7 août 2018, au micro de Caroline Brouet.
Je rêve, oui. Ça, c'est peut-être c'est un secret sans secret, parce que c'est chez les rêves où... en rêve, dans cet univers inouï que... C'est le trésor, c'est le monde du trésor, mais c'est un trésor qui m'est accordé, et enfin qui m'est prêté plutôt, qui ne m'est pas donné, parce qu'il est très incertain, où c'est là, ce sont les grottes, ce sont les mines, et c'est l'art suprême. Je rêve, et je retiens mes rêves, je les saisis, je les capture, je les note. Et afin qu'ils ne s'échappent pas, parce que c'est le propre des rêves, hein, que de s'en aller, je les retiens par les franges, comme ça. C'est-à-dire que pendant la nuit, je note très rapidement quelques germes de rêves. Et comme j'écris en pleine nuit, et de manière évidemment... Bon, alors ça donne des choses extrêmement bizarres. C'est des œuvres, d'une certaine manière. C'est pas particulièrement joli. C'est quasiment illisible, mais j'arrive à reconstituer quand même le matin. Ce qui m'embête, c'est que parfois, j'écris un rêve sur un autre parce que j'ai pas retourné mon papier. Et alors là, ça fait un drôle de palimpseste, mais bon. Et à l'aube, entre la nuit et le jour, je rédige très vite. Et là, justement, les chats se transforment en sphinx solidaires. C'est-à-dire, restent... Je leur dis, hein, je leur dis, attention, j'écris. Hein. Et elles m'accordent la demi-heure qu'il me faut pour rédiger le plus rapidement possible un rêve qui est encore palpitant, qui n'est pas encore devenu spectre, vapeur. Et là, quand je jette un coup d'œil sur un rêve, je me dis toujours que je suis humblement dépassée par la puissance incommensurable d'un rêve qui s'est dicté à moi, mais que je ne maîtrise pas du tout, du tout, du tout.
Nous venons d'entendre Hélène Cixous à propos de sa faculté à rêver la nuit, cette nuit apaisante, cette nuit constructrice. Mais pour pouvoir rêver, il faut pouvoir dormir. Alors les rêves éveillés, on peut les provoquer. Vous qui avez été psychanalyste, et il y a différentes techniques, mais quand même. Donc vous ne rêvez pas alors, Marie Dariussec?
Si, je rêve beaucoup, justement, parce que quand on est donc hyper vigilant ou hyper vigilante, on est toujours au bord de s'endormir, mais on ne s'endort jamais. On ne se laisse jamais aller à s'endormir. On se retient toujours au bord, comme s'il y avait un très grand danger à dormir. Et du coup, les rêves se passent dans une forme d'éveil très étrange. C'est seulement en devenant insomniaque que j'ai compris le journal de Kafka. Moi, j'adore Kafka, j'ai tout lu, j'ai tout. Mais ce journal me résistait.
Vous dites que tout Kafka, c'est votre livre de chevet, oui, l'œuvre de Kafka.
Mais ce journal, je me résistais, je ne le comprenais pas parce que je ne comprenais pas qu'il l'écrivait vraiment à 4 heures du matin. Et quand il dit « je n'ai pas de sommeil, je n'ai que des rêves », je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais effectivement, quand on est hyper vigilant, on est dans la zone qu'on appelle hypnagogique, la zone des rêves. Et on peut
hypnagogique ?
Hypnagogique.
Ah, hypna, ouais. C'est-à-dire
Le sommeil, plutôt, je ne sais pas,
on
j'ai pas fait
de
grec.
On est soi et pas soi.
C'est la zone techniquement des rêves, et ça vient de, c'est comme hypnose, ça vient de la même racine, je suppose. Et donc les rêves se déroulent, on est assez proche de l'hallucination, et Kafka, il est complètement dans l'hallucination. Il a souvent des visites, comme il dit. Il a souvent des visites d'enfants. Il a un enfant aveugle qui vient au pied de son lit. Là, et c'est jamais vraiment effrayant, c'est plutôt intrigant. Ce sont des visites qu'à vrai dire il attendait, comme il dit à un moment. C'est absolument magnifique. Mais il est aussi persécuté par ses visites, ses visiteurs trop nombreux qui ne le laissent pas dormir, croit-il. Alors qu'en fait, il est déjà en train de dormir. C'est une sorte de d'éveil endormi. C'est hyper fatigant. Et je connais ça, malheureusement. Donc je suis dans cette matière des rêves tout le temps, qui est pas toujours très intéressante. Hein. Il arrive effectivement d'en avoir un beau, comme un peu comme on pêche à la ligne. Alors des fois je le note, comme ma grande aînée, Hélène Sixous. Quelle belle voix elle a. Mais c'est la plupart du temps pas intéressant. J'aimerais tellement mieux dormir, sombrer, oublier, l'oubli. Trouver l'oubli. Ça serait bien. Et je le trouve quand même très rarement.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le quatrième et dernier épisode de Désir de nuit avec Marie Dariussec, et vous écoutez son choix musical, Ceux qui rêvent de pommes. Et tout de suite après, nous entendrons Kafka dans un extrait de ses journaux, un choix bien évidemment de Marie Dariussec.
Mes nuits blanches ne sont pas blanches, à peine claires, semées d'étoiles, petits trous dans la toile étanche, triste strass sur le voile, et moi envoûtée de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les moutons funèbres qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là, ah, je ne dors pas, et moi je dors et plus je pense et plus je pense. S'impasse l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. C'est inouï tout ce silence qu'il est cosmique cet ennui. Dois-je recourir à la science, anesthésier l'insomnie? Des insomnies.
Déjà devenu insupportable, vers le soir, un jour de novembre, et que je courais sur les trois tapis de ma chambre comme si c'était une piste de course, effrayé par la vue de la rue illuminée, je me retournais et reçus de nouveau au fond de la chambre, dans le profond reflet du miroir, une autre destination, et je criais pour n'entendre que le cri, auquel rien ne répond, et auquel rien non plus n'enlève sa force, qui donc s'élève sans contrepoids et ne peut cesser. Même s'il se tait, alors la porte s'ouvrit dans le mur, très vite, parce que la rapidité était tout de même nécessaire et parce que même les chevaux attelés en bas sur le pavé se levaient en allongeant leurs jambes de derrière et en avançant la gorge, comme des chevaux devenus sauvages dans la bataille. Un enfant surgit, comme un petit fantôme, hors du corridor totalement obscur, dans lequel la lampe ne brillait pas encore. Il resta dressé sur la pointe des pieds comme une ballerine, sur une lame de plancher qui oscillait imperceptiblement. Aussitôt aveuglé par l'aspect crépusculaire de la chambre, il voulut vite cacher son visage dans ses mains, mais il se tranquillisa tout de suite en regardant la fenêtre, devant la croisée de laquelle le halo montant de l'éclairage urbain stagnait enfin sous l'obscurité. L'enfant se tint debout, en s'appuyant du coude droit contre le mur en face de la porte ouverte, et il laissa le courant d'air venu de l'extérieur lui caresser les chevilles ainsi que le cou et aussi les tempes. Je le regardai un peu, puis je dis « Joue ». Et j'enlevai ma veste de l'écran du poêle parce que je ne voulais pas rester demi nu. Je gardai un petit moment la bouche ouverte afin que l'émotion s'en aille par la bouche. J'avais en moi de la mauvaise salive. Mes cils tremblaient sur mon visage, je sentais une tension dans le coin gauche du front comme si j'avais reçu un coup de carabine indolore. Bref, il ne me manquait rien, si ce n'est cette visite d'ailleurs attendue. L'enfant était encore contre la cloison à la même place. Il appuyait sa main droite contre le mur et ne pouvait. Les joues toutes rouges se rassasiaient du fait que la cloison était crépie en blanc et qu'elle râpait le bout de ses doigts, qu'il ne cessait de regarder. Je dis, vouliez-vous vraiment aussi venir chez moi? N'est-ce pas une erreur? Rien n'est plus facile qu'une erreur dans cette grande maison. Je m'appelle X, j'habite au 3e étage, chambre numéro 2. Suis-je donc celui que vous vouliez voir? Du calme, dit l'enfant par-dessus son épaule. Tout est bien en ordre. Alors, entrez vraiment dans la chambre, je voudrais fermer la porte. Je viens à l'instant de fermer la porte. Ne vous en donnez pas la peine, calmez-vous surtout.
Nous avons entendu successivement Pomme, Je ne dors pas, elle est comme vous, Marie Dariussec, et puis un extrait des journaux de Kafka. On va revenir à Marcel Proust, qui est omniprésent comme Franz Kafka à l'intérieur de Pas dormir, et cette phrase de Proust tout à fait stupéfiante qui dit, je le cite, « Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l'ordre des années et des mondes. » Fermez les guillemets, fin de citation. Une femme qui ne dort pas, qu'est-ce qu'elle tient entre ses bras?
De l'eau qui coule, quelque chose qui s'enfuit, le temps. C'est très curieux, c'est une phrase magnifique et on pourrait en rêver sur cette phrase longtemps. Mais il y a le paradoxe dans l'insomnie, c'est que le temps est à l'arrêt, on est dans une espèce de présent perpétuel. On est là, on est ici et maintenant. Et en même temps, on est complètement traversé par le passé, le futur, les souvenirs, les angoisses de l'avenir, le monde tel qu'il va. Enfin, on est à la fois tout petit au fond de son lit et complètement avec les galaxies, quoi. C'est une forme de dinguerie complète. Et je ne sais pas ce qu'il advient du moi dans l'insomnie. Il est à la fois beaucoup trop présent et en même temps pulvérisé, traversé, malmené, enspiralé. Enfin, c'est une expérience parfois vraiment proche d'une forme de délire personnel, bon, qui n'embête personne, hein, parce qu'on est... Moi, je dors seule, vous pensez bien, je vais pas embêter. Y a rien de pire que de réveiller un insomniaque qui dort. Alors là, c'est le divorce assuré. Donc, mon mari et moi, nous faisons chambre à part, ce qui est le dernier des tabous. Enfin, ce sociologue, là, Jean-Paul Kaufmann, avait écrit là-dessus. Mais, oui, on a... Enfin, un insomniaque est très, très seul. Et en même temps, il est avec tout le monde. C'est très paradoxal, parce qu'on est très nombreux à ne pas dormir, et en même temps, on est tous persuadés qu'on est seul dans cette galère, seul au milieu de la ville qui dort. C'est une drôle d'expérience, très paradoxale.
Avez-vous essayé la fatigue? La fatigue extrême de soi?
Comme Suran?
Oui, tomber de fatigue.
J'ai essayé de ne pas dormir du tout, de m'empêcher de dormir pour tomber. Ça marche, c'est extrêmement désagréable et au bout du bout, quand on titube, ça n'est pas du tout intéressant. Enfin, il faut pas s'infliger ça. C'est très maso de faire ça. Faut pas faire ça. Faut s'allonger un peu, faut arrêter. Et parfois, le sommeil vient, magnanime. Non, j'ai pas de recette à part l'accepter.
Le sommeil vient, vous en parlez comme dans un sujet plein et entier.
Ah oui, oui.
Un interlocuteur, quoi.
Oui, parce qu'il fait ce qu'il veut. Insomnie, il y a quand même quelque chose de profondément rebelle hein, à mon corps défendant dans l'insomnie, c'est-à-dire que je suis sommée de dormir et je dis non. Et effectivement, Tadié a raison sur Proust, il y a un enfant qui veut pas aller au lit chez Proust et peut-être chez pas mal d'écrivains, même si écriture et insomnie n'ont pas forcément partie liée. Hein. Il y a des gens qui dorment très bien et qui écrivent très bien. Paul Valéry était un excellent dormeur, il se levait tous les matins à 5h et zou, il écrivait son poème. Mais c'est vrai que mon goût va vers les écrivains qui ne dorment pas et je me rappelle de Nathalie Sarraute, encore une grande aînée, qui me disait qu'elle se réveillait tout le temps à 3h du matin et qu'elle avait un truc, c'est qu'elle prenait un petit shot de vodka avec quelques tranches de saucisson.
Bah vous avez essayé?
J'ai essayé, mais surtout, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait rendez-vous avec la vodka. Que c'est pour ça qu'elle se réveillait, et avec le saucisson. C'est trop bon. Donc, effectivement, on aime ses insomnies aussi. Il y a quelque chose de l'ordre du rendez-vous avec soi, ou avec les livres, ou avec l'alcool, pourquoi pas. Avec, c'est un temps à soi, décidément, qui n'est pas voilà. C'est un temps qui n'est pas de travail. Ça, c'est très important.
Je vous propose d'écouter la voix de Peter Handke à propos de son essai sur la fatigue, Archivina, 12 juillet 2013.
Il y a plusieurs façons d'être fatigué. Je me suis dit, il y a tellement de facettes de la fatigue. La fatigue qui est vraiment presque mortelle et qui est désespérante. Ou la fatigue de la solitude, la fatigue... Il y a une fatigue exceptionnelle qui donne vraiment presque des visions, ou qui rend l'être sociable. Il y a une fatigue qui rend asocial. C'est une fatigue qui est très rare. Pas si rare, non. J'exagère. Mais qui est tellement monumentale que les frontières vers l'autre s'ouvrent. Et c'est pour ça que j'écris ces plusieurs façons d'être fatigué. Je me suis dit, ça doit être un sujet pour un essai qui est en même temps un récit. Parce qu'un essai seul, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est toujours la narration. Et raconter quelque chose en posant des questions. C'est quoi cette fatigue-là, elle était comment? Quand j'étais enfant, quand à la messe de minuit à Noël, j'ai souffert. Je voulais dormir. Après, il y avait d'autres fatigues. Quand on a travaillé avec mes grands-parents à la récolte, quand on est tous ensemble, on était complètement... Mais on a existé avec les autres. Même si on n'a pas dansé. Mais en étant fatigué, c'était comme une danse. En étant immobile. Alors, ça m'a intéressé à... Je me suis dit, peut-être c'est un sujet pour un petit livre qui peut quand même poser des questions aux autres. Est-ce que tu as vécu un peu ça aussi ou peut-être pas, tu peux me contredire aussi, ça fait partie d'un livre aussi, la contradiction du lecteur.
Nous venons d'entendre la voix de Peter Handke à propos de cet essai magnifique sur la fatigue. Et à l'issue de la lecture de votre livre « Pas dormir », Marie Dariussecq, je me suis dit, et d'ailleurs Peter Handke ne dort pas, il est insomniaque comme vous, il va dans les cafés la nuit, il ose marcher la nuit dans les forêts, même s'il n'y a personne autour de lui. Et vous, je me suis demandé à la fin de votre livre si finalement vous ne dormiez pas parce que vous vouliez vous fatiguer de vous-même, comme si vous vouliez chercher la coïncidence avec vous-même dans un excès de fatigue.
Oula, je suis pas sûre de comprendre. Ça me fait penser à tous ces exercices de relaxation où justement on essaie de se débarrasser de soi-même.
Oui, vous avez des applis sur votre téléphone portable.
Alors, surtout ne pas se connecter la nuit, mais j'ai des boîtes non connectées qui me diffusent de la musique douce, qui me demandent de me décontracter l'orteil gauche et de remonter par le mollet, le genou, etc. Et alors, franchement, ça marche. On est très relaxé, mais femme relaxée n'est pas femme endormie. Ça n'a rien à voir. Donc,
femme endormie cherche prince charmant. Pour pouvoir s'endormir, il faut trouver le prince charmant.
Femme endormie vit mieux la nuit, ça c'est sûr.
Enfin, ça dépend, parce que dans des nouvelles, et d'ailleurs vous la citez, cette nouvelle magnifique et en même temps très vénéneuse de Kawabata, les femmes étaient endormies de manière...
Les belles endormies.
Voilà, belles endormies. Elles étaient endormies de manière artificielle pour pouvoir être manipulées traîtreusement par des vieux lascars qui venaient les tripoter sans qu'elles s'en rendent compte. Donc,
ce qui est formidable dans ce livre tellement politiquement incorrect, c'est que en fait, le vieillard qui va tripoter toutes ces jeunes femmes endormies, il est fasciné par leur sommeil et il veut dormir comme elles. Et à la fin du livre, il demande le même somnifère qu'elle à la patronne. Après quand même avoir trouvé une femme morte parce qu'elle a été endormie à mort par trop de barbiturique dans son lit. Alors la patronne lui dit, mais je vous la remplace. Enfin, j'en mets une fraîche en quelque sorte. Et là, il veut juste dormir. Parce qu'en fait, tout ça est trop horrible. Et c'est très beau, en fait.
Vous risqueriez votre vie pour essayer de dormir?
C'est très dangereux, les somnifères, parce qu'à 4h du matin, c'est toujours une mauvaise idée d'en prendre un, mais juste des fois, on craque. Et on se rendort un peu, et puis moi, je me réveille et il m'arrive d'oublier que j'en ai déjà pris un. Et on peut vraiment plonger la main dans le sac de bonbons somnifères jusqu'à en mourir. Il y a des accidents assez fréquents comme ça. Donc les somnifères, c'est merveilleux. C'est ce que Proust appelait le système Brissot, hein, que Tadier décrivait. Proust aussi, il conseillait de regarder juste la boîte du Véronal. Il prenait du Véronal. Et c'est beaucoup
vous,
plus prudent.
Vous, c'est Donormil.
Oh, bah, j'ai tout essayé. J'ai absolument
non,
tout essayé.
Non, mais Donormil, c'est celui que vous préférez quand même. En plus, alors, il est en vente gratuite et pas besoin d'ordonnance.
Il a l'avantage d'être en vente libre. Ça laisse très, 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 très vaseux, le Donormil. Et ça fait des trous au cerveau aussi. Enfin, je m'exprime mal, mais ça me donne des trous de mémoire. Et, non, le mieux, c'était un truc qui a disparu qui s'appelait le Noctran. Mais c'était tellement dangereux qu'ils l'ont retiré de la circulation. J'ai absolument tout essayé.
Vous notez à l'intérieur de votre livre, Marie Dariussec, que la délivrance justement de somnifères devient un sport entre guillemets, une addiction de plus en plus difficile de la part des insomniaques et que beaucoup de médicaments qu'on donnait encore il y a 10 ou 15 ans, maintenant sont sur des listes impossibles.
Oui,
pourquoi
par exemple,
c'est une question. Est-ce qu'on nous autoriserait plus à dormir artificiellement? Est-ce que la nuit a changé de statut?
Il y a une approche du sommeil qui est devenue très morale. C'est-à-dire qu'il est interdit de se droguer. On a retiré aussi comme ça le Stilnox que j'adorais. Moi, il faut une ordonnance de l'hôpital pour l'avoir. Il est interdit de se droguer. Il faut appliquer une hygiène stricte de vie. Se coucher toujours à la même heure, se réveiller se lever quand on est réveillé, ne pas boire de café, ne pas boire d'alcool, etc. Ça fait suer vraiment. Il y a
donc
un côté...
ne pas affronter la nuit. La nuit devient incorrecte.
Oui.
Dangereuse, toujours
cas,
comme elle l'était auparavant.
Une fois qu'on a tout bien fait, quand on ne dort toujours pas, on est mis en échec, en fait. Il y a quelque chose qu'on a mal fait dans toute cette hygiène de vie. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je me suis retrouvée à repicoler. Parce que puisque je pouvais plus prendre de somnifères, autant m'assommer. Donc il n'y a pas d'issue, en fait. Il n'y a pas d'issue ni dans les produits, ni dans le comportement. Il y a peut-être une issue dans une forme d'acceptation, mais elle est rude, quoi. Elle est vraiment rude. Et d'attente. J'attends toujours que le sommeil revienne. On verra. Et je lis.
Et vous écrivez aussi, peut-être pas la nuit.
Ça dépend.
Mais en même temps, vous rêvez. Et l'insomnie vous est bénéfique, si j'en crois. à votre texte. À un moment, je vais vous citer, Marie Dariussec, vers la fin du livre, l'insomnie vous donne des ailes. La proximité de la nuit, l'alliance avec la nuit, vous autorise à partir au plus profond de vous-même. On parlait de Marguerite Duras en début d'émission, elle qui disait que chacun de nous pouvait en écrire à condition de descendre au plus profond de nous, ce qu'elle appelait le puits noir. J'ai l'impression que la nuit vous autorise à descendre à l'intérieur de vous. Voici ce que vous écrivez. Comment dormions-nous avant dans les forêts? Comment faisions-nous au temps des forêts? Nous faisions groupe et grotte. Nous nous tenions chaud en nid comme les gorilles. Nous avions sans doute inventé le tour de rôle. Même le garde doit tomber la garde. Même le guetteur doit fermer l'œil. Dans les grottes, les enfants dormaient, veillés par les adultes. Là, on est dans la nuit de l'obscurité, de l'origine du monde, peut-être.
Mais la nuit très archaïque, oui. La grotte Chauvet, à Lascaux, on voit que toutes ces peintures étaient faites pour être éclairées avec une torche, en fait. Et qu'en fait, elles sont dans la nuit constamment. Actuellement, là, à Lascaux, à la grotte Chauvet, quand je vous parle, les peintures sont toujours là. J'ai envie de le dire en chuchotant. Je trouve ça extraordinaire, cette nuit de l'humanité, quoi, d'où on est sorti. C'est un peu ce que disait aussi Sixou. Il y a quelque chose, effectivement, de la grotte, du puits, du trésor. Mais à quel prix, quoi? À quel prix? J'aimerais tellement juste dormir, juste me coucher et dormir comme font les bons dormeurs. Et je suis sûre que le matin, fraîche et reposée, j'écrirais bien aussi.
Ben moi, égoïstement, comme beaucoup d'auditrices et d'auditeurs, j'espère que vous garderez pour vous vos insomnies et votre amour de la nuit, car cela nous donne l'occasion de lire votre livre qui nous permet de traverser la nuit, qui s'intitule « Pas dormir ». Et qui est paru il y a très peu de temps aux éditions POL. Vive la nuit et merci infiniment Marie Dariussec. On va se quitter avec la lecture d'un poète que vous citez à l'intérieur de votre livre et qui a écrit magnifiquement sur la nuit. Il s'appelle Henri Michaux.
Il est bien difficile de dormir. D'abord, les couvertures ont toujours un poids formidable et, pour ne parler que des draps de lit, c'est comme de la tôle. Si on se découvre entièrement, tout le monde sait ce qui se passe. Après quelques minutes d'un repos d'ailleurs indéniable, on est projeté dans l'espace. Ensuite, pour redescendre, ce sont toujours des descentes brusques qui vous coupent la respiration. Ou bien, couché sur le dos, on soulève les genoux. Ce n'est pas préférable car l'eau que l'on a dans le ventre se met à tourner de plus en plus vite. Avec une pareille toupie, on ne peut dormir. C'est pourquoi plusieurs, résolument, se couchent sur le ventre, mais aussitôt, Ils le savent, mais tant pis, disent-ils, ils tombent. Ils tombent dans quelque abîme profond. Et si bas qu'ils soient, il y a toujours quelqu'un qui leur tape du pied dans le derrière pour les enfoncer. Encore plus bas. Plus bas. Aussi, l'heure d'aller dormir est pour tant de personnes un supplice sans pareil.
De James Blake que nous allons nous quitter ce soir pour ce quatrième et dernier épisode de cette série intitulée Désir de nuit. Merci à Janine Mossus-Laveau, merci à Michael Fossel, merci à Tring Swansan et merci bien sûr à Marie Dariussec qui sort actuellement un livre intitulé tout simplement Pas dormir. Les remerciements ne sont pas terminés parce que nous voudrions aussi remercier Julien Gosselin pour ses lectures, Evie pour la musique, ainsi que Lilian Alaume qui a réalisé cette magnifique série tout au long de cette semaine. Merci aussi à Élodie Royer, Iris Vertanessian et Céline Villegas, ainsi qu'à Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux et à Vincent Godard qui était à la régie technique.